et bienvenue autour de votre grande table. Migrants, des damnés de la mer aux damnés de la terre. Une crise continue, celle de l'exil qui pousse sans fin et pose sans fin des questions morales et politiques comme celle de l'accueil, des conditions d'hospitalité, de l'intégration et de la protection des personnes vulnérables. Invité de la grande table des idées aujourd'hui, la géographe Camille Schmoll et l'agriculteur militant de la vallée de la Roya, Cédric Héroux. Mais d'abord, en préparation du tournage qui s'approche de son nouveau film qui se déroulera en partie dans les studios de la Maison de la Radio, son premier film, Chocolat, est à voir sur la plateforme M4 Curiosité. Son dernier film, High Life, vient d'être rediffusé sur Arte. Entre les deux, Radioscopie, aujourd'hui de la cinéaste Claire Denis, prix France Culture Consécration en 2018. Elle est notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
2018, cette année-là, en marge du Festival de Cannes, elle nous disait « Le cinéma permet de pénétrer dans des univers et des pensées qu'une vie ne suffirait pas à faire connaître. » On peut déjà faire un premier parallèle avec la Maison Ronde, son architecture circulaire, ses couloirs sans fin, au sens propre comme au sens figuré. Quand on y entre dans cette maison, une vie ne suffirait pas à en faire le tour. Bonjour Claire Denis.
Bonjour.
Vous avez fait ce pas culotté, osé. Vous êtes entrée dans cette maison de la radio, vous risquez de ne pas en repartir, vous le savez.
Je l'aime beaucoup depuis longtemps. D'abord, j'aime beaucoup sa forme. J'aime beaucoup ce qu'elle représente. Et j'aime beaucoup écouter la radio. Je crois que je pourrais pas vivre sans radio.
C'est un bâtiment cinégénique pour vous qui produit tout de suite des images et du sens, cette maison ronde, cette maison de la radio.
Non, je la vois pas comme des en image. Je sens que c'est un univers dans lequel on rentre, dans lequel on peut se perdre, dans lequel il y a de la des places pour les orchestres, dans lequel il y a des places pour la pensée. Je le vois plutôt comme un lieu assez magique, quoi. Je me souviens à une époque quand les travaux n'avaient pas commencé, les travaux de réfection. J'en étais malade, j'avais l'impression que on prenait pas soin de ce bâtiment extraordinaire au bord de la Seine parce qu'il contenait quelque chose. On sent qu'il a un contenu.
Et une histoire. C'est aussi le cas des studios de radio. Vous pensez que quelque chose peut naître de ce lieu? Est-ce que vous le voyez comme un univers clos, ce studio de radio, ou un univers plutôt connecté, ouvert, sur un monde ou sur le monde?
Je pense qu'un studio de radio, il n'est que ouvert. Il n'est que ouvert. D'abord, il y a l'histoire des ondes. Les ondes vont partir vers les antennes. Alors moi, je pense que c'est comme une station spatiale. Ça émet. Ah, pour moi, c'est au contraire, c'est l'ouverture. Moi, quand je parle chez moi, je n'émets pas. Mais quand j'écoute la radio, elle émet dans ma cuisine.
Et dans quelques jours, vous commencerez le tournage de votre prochain film, en partie ici, dans ce lieu, la Maison de la Radio. Vous y retrouverez Vincent Lindon, Grégoire Collin et Juliette Binoche, qui sera journaliste, animatrice, radio. Alors, avec son actrice et son premier assistant réalisateur, Joseph Rapp, et pas seulement, le chef Hop, et là aussi, vous êtes venu nous voir, tout simplement, voir comment ça se passe en vrai. Enfin, je sais pas s'il y a quelque chose de si vrai, finalement, ici, de ce qui se joue dans ce studio. Est-ce que c'est si vrai ou est-ce qu'on n'est pas là encore dans le cadre d'une émission de radio, dans une quelque chose qui est de l'ordre de la fiction aussi, de la mise en scène?
La mise en scène, j'aime mieux pas trop y penser. J'espère qu'elle sera au rendez-vous. Juliette sera au rendez-vous. À nous d'avoir préparé des émissions qui ouvrent, qui vont parler de sujets qui pourront émouvoir les spectateurs, comme la radio le fait. Comme la radio, elle fait pas qu'informer, elle par exemple, avec Juliette, on parlait de Beyrouth il y a pas longtemps. Donc on savait que ce qui s'était passé à Beyrouth et qui se passe depuis des années à Beyrouth, c'était grâce à la radio, plus qu'à la télévision peut-être, on pouvait être reliés.
Connecté.
Connecté, oui.
À ce mot-là aussi. La radio, vous l'évoquez, ça.
Et connecté, vous voyez, c'est un mot que j'aime moins que relié, moi. Je sais pas pourquoi. Connecté, ça fait un peu technique, alors que d'être relié à la vibration d'une voix, à un accent, quelqu'un qui parle pas très bien français ou pas très bien anglais, tout d'un coup on l'imagine, cette personne.
Et vous êtes une auditrice de France Culture, mais aussi de RFI. RFI, c'est la radio que vous prenez plaisir parfois à allumer, pas simplement pour écouter les bonnes ou les mauvaises nouvelles, mais aussi pour entendre ces voix venues d'ailleurs, de l'extérieur.
Oui, bien sûr, parce que j'ai besoin... Bien sûr, je pourrais passer ma journée sur Internet pour savoir ce qui se passe en Nouvelle-Zélande, à Madagascar, au Mozambique... Et en même temps, entendre un paysan malgache parler de la sécheresse, ça m'importe plus que de savoir, par exemple, qu'en ce moment, il y a une faille qui est en train de s'ouvrir dans la mer Rouge et qu'il y aura peut-être un jour un nouvel océan là. Mais moi, je serai poussière depuis longtemps. Tandis que les gens là, en Érythrée, en Éthiopie, à Madagascar, qui ont une vie difficile, ça m'importe de les entendre. Ouais.
Dans ce moment, en fait, on n'est pas ensemble, mais la radio connecte, vous le dites, elle crée du lien. Dans votre cinéma, Claire Denis, il y a de la place, toujours pour le non-dit aussi, pour l'implicite. Est-ce que vous pensez que la radio permet cela aussi, ce surgissement ?
Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il y a les silences, il y a la respiration, et il y a l'hésitation aussi. C'est-à-dire qu'on... Parfois, la réponse à la question ne jaillit pas tout de suite. Il faut la chercher en soi. Et parfois, à la radio, on entend les gens penser.
Numéro 149 au rapport.
Quand tu regardes vers les collines, là où il n'y a plus de cases, où il n'y a plus d'arbres, quand la terre touche le ciel, exactement, c'est l'horizon.
Encore 4 ans pour atteindre notre destination.
Plus tu t'approches de cette ligne, plus elle s'éloigne.
Il fallait lancer la manœuvre de décélération pour que le vaisseau puisse s'approcher du trou noir. C'était un des plus proches dans notre galaxie. Un petit. L'objectif principal de notre voyage. Tenter de capturer l'énergie rotationnelle d'un trou noir.
Ça aussi, il faudra que je te l'explique.
Nous, les héros. On allait offrir à l'humanité une source d'énergie presque infinie.
Tu vois cette ligne ? Tu la vois ? Elle n'existe pas.
Si ce message finit par vous parvenir, dans 100 ans, je vous emmerde. Terminé.
Le travail du son, Claire Denis, il n'est pas qu'à la radio, il est aussi dans vos films, au cinéma, travail de la musique.
Voilà, vous avez fait un montage sonore incroyable.
Ah, c'est signé du réalisateur, c'est vrai, lui, là, Thomas
Chocolat, Beau, la voix de François Cluzet, et la personne qui double Robert Pattinson dans High Life. Ouais. Je peux dire une petite chose presque inutile.
Bon, c'est à
vous. Il parle de la pub. De l'énergie du trou noir vers lequel il se dirige. Et il y a quelques mois, le vieux professeur Penrose, mathématicien anglais qui a presque 100 ans, qui n'avait jamais été reconnu de sa vie, sauf qu'il avait découvert l'énergie dans les trous noirs, a eu le prix Nobel.
Le trou noir, il n'est pas pour tout de suite néanmoins. On est là quand même dans cette atmosphère presque silencieuse, à moins qu'on y mette des mots, à moins qu'on y mette des sons. C'est ça la radio, c'est ça aussi le cinéma, Claire Denis. Derrière cette table de studio, il y a l'acteur qui va, dans votre film prochainement, être privé de corps, qui sera un buste et un visage. Vous qui aimez tant filmer les corps aussi. On se souvient quand même du visage de Juliette Binoche, on va faire comme si elle n'était pas là, pas dans ce studio, en Isabelle si désirable et si désirante dans un beau soleil intérieur, passant du rire aux larmes, en racontant sa nuit avec celui qui a du mal avec le jour après jour et qui du coup préfère parler du soir après soir. Vous allez concentrer les émotions sur les visages dans ce futur tournage, ce film à venir.
C'est difficile de parler des futurs tournages, mais j'espère que oui, parce que c'est un film qui est aussi bourré d'émotions et c'est ça qui... Enfin, je ne doute en aucun cas des acteurs dans les tournages, je ne doute que de moi. Et je connais suffisamment Juliette maintenant pour et Vincent aussi, et Grégoire, pour savoir que... Oui, on... mais c'est la question... Le doute, c'est moi qui ai le doute, en fait. Être à la hauteur de ce que peut donner une actrice, un acteur, c'est pas quelque chose de... C'est pas technique. Il faut le ressentir soi-même, avec le chef opérateur qui est là.
Éric Gauthier,
oui.
Oui. On connaît justement votre fidélité d'abord pour Agnès Godard. Aujourd'hui, vous allez travailler avec Éric Gauthier, l'importance de la direction de la photographie, de l'image, de la lumière. Cette complicité, cette fidélité qui vous a amené à ces collaborations-là, vous avez les mêmes du côté du son?
Oui, très souvent, j'ai travaillé avec deux ingénieurs du son différents, mais de que deux, voilà. Et surtout, je travaille depuis 25 ans avec un groupe de musiciens, les Tindersticks, Stuart Staple. Donc ça a créé aussi une sorte de... Pas d'usure, mais de... On peut se rafler un peu, on peut s'écorcher, mais on se cherche toujours. Et lui, c'est pas un musicien de cinéma. C'est un musicien et un chanteur. Donc lui aussi cherche quelque chose dans les films. De l'émotion aussi.
Une complicité, une complémentarité, pas un coloriage. C'est aussi ce que dit, à propos de son rapport à la musique, le cinéaste Jim Jarmusch.
La musique, c'est très important pour moi. Mais c'est un plaisir aussi parce que j'aime la musique. Je n'aime pas que la musique apparaisse comme un élément dissocié du film ou qu'elle vous dise ce que vous devez ressentir ou comment vous devez réagir. La bonne musique, pour moi, c'est une musique intégrée dès la fabrication du film et intégrée à l'atmosphère, à son contenu. Et j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec des gens comme Neil Young, Tom Waits ou John Laurie ou Reza, qui font une musique qui colle parfaitement et qui vient de l'intérieur du film plutôt qu'une musique plaquée. Je fais très attention à travailler avec des musiciens qui fonctionnent comme ça, dont les propres musiques sont comme ça. Pas quelque chose à la mode, mais quelque chose qui vienne de l'âme ou du sang. Avec leur musique, ils emmènent le film plus haut qu'il ne serait allé sans la musique. Et ils nous apportent aussi leur âme et leur esprit.
Voilà, vous avez travaillé un peu avec Jarmusch, hein. C'était sur Don Baglow, c'était ça?
Oui.
Ouais. Mmh. C'est intéressant cette manière qu'il a de dire que la musique, évidemment, ne doit pas être redondante avec l'image, mais qu'en plus, elle doit apporter aussi une âme au film, hein, un caractère particulier. C'est cette alchimie-là que vous recherchez aussi?
Oui, je crois que la musique, si elle est là pour renforcer quelque chose qui est déjà là, elle l'illustre et c'est tragique pour le film. C'est comme si ça l'effaçait. Alors que si le musicien lui-même ou la musicienne est ému par quelque chose dans le film, il va composer autour du film et il va en effet tirer le film vers le haut. Par exemple, je me souviens un jour, Stuart m'a dit une chose. Il m'a dit, tu sais, la seule scène... Il parlait pas du film qu'on va faire là, mais il parlait... La seule scène sur laquelle je pourrais commencer à penser à la musique, c'est la scène où on voit les draps qui sèchent dehors. Je lui dis, ah bon? Je dis, bah, je vois de la musique. Il n'y a que par là que je peux rentrer dans le film. Et en effet, c'est... Je le comprends. Parce que moi aussi, je fonctionne comme ça, au fond. On fonctionne sur des choses qui nous touchent et sur lesquelles on peut s'agripper comme un alpiniste qui n'a pas de piolet et qui n'a la force que la force de ses doigts pour monter. Et je crois que les musiciens sont comme ça et qu'ils comprennent le travail comme ça.
Et c'est pour ça qu'au final, il y a presque une communion qui peut se jouer entre l'image et le son, hein. Quelque chose un peu mystique aussi quand même dans ce rapport ou de sacré qu'on peut retrouver. Pour l'image comme pour le son, Claire Denis, la technique, la technologie a jamais été pour vous un obstacle. Vous avez toujours réussi à la placer au service du projet.
Et le mot technique, bien sûr, je sais qu'il existe. Mais je crois que j'ai, comme tout le monde, entendu Godard dire que la technique, c'était pas grand-chose. Au fond, on l'apprenait très vite. Mais je crois que ce qui est important dans un film, c'est pas tellement la technique. C'est comment on va s'approcher des personnages du film et comment on va les rendre inoubliables beau, vivant, et comment on va accompagner leur émotion. Et ça, c'est quand même le travail du cinéma, et c'est technique, oui, mais c'est surtout émotionnel, je crois. Il me semble, moi je sais que je vis à côté de la caméra comme un champignon vit au pied de l'arbre.
Hein. Avec nous, Claire Denis, cinéaste, on évoque ensemble le tournage de votre prochain film qui se déroulera en partie ici dans les studios de la Maison Ronde, de la Maison de la Radio, avec Vincent Lindon et Juliette Binoche notamment. Vous êtes avec nous jusqu'à 12h30. On va se faire une balade musicale ailleurs, autre, avec les natifs de Clermont-Ferrand du groupe Mustang et ce titre Memento Mori, annonciateur d'un nouvel album qui arrivera avec le printemps, Prestige Mondial, 12h17 sur France Culture. Mustang, avec ce prochain album apparaître au printemps prochain sur le label Prestige Mondial chez Sony Music, France Culture. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant avec Claire Denis.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Le tournage de ce prochain film, Claire Denis, va débuter alors que le confinement sera loin d'être terminé. Tout juste, les salles de cinéma pourront commencer à rouvrir, peut-être après le 15 décembre, dans des conditions qui sont encore à déterminer. Mais à ce stade déjà, on sait que les répétitions au théâtre pour le spectacle vivant ne sont pas interdites. Les tournages au cinéma non plus n'ont pas été arrêtés. Ça doit pas être quand même évident de tourner, de se projeter pour le coup en temps de confinement. Vous allez privilégier les intérieurs sur ce prochain film. Est-ce que ce qui se joue autour de nous en ce moment avec cette crise sanitaire va avoir des incidences ou des répercussions sur vos tournages ?
Ben, probablement, ça en a déjà eu pendant l'écriture. Il n'y avait pas des grands rassemblements de foule, mais c'est une histoire intime de toute façon. Mais je pense que c'est une grande chance de pouvoir travailler. Ceux qui peuvent, il y en a qui peuvent pas travailler en ce moment. Et pour ceux qui peuvent travailler, la semaine dernière, on est allé au Théâtre de la Colline avec Juliette, justement. Et Wajdi Mouawad nous disait que il avait instauré un rythme de travail, de répéter tous les jours. Et il jouerait, dès que les théâtres ouvriront, ils joueront quelque chose. Parce que, vous savez, on fait des métiers où on ne tient bon que quand on a un projet, que quand on travaille, il n'y a pas de... Pour beau, on est comme tout le monde, on a besoin d'argent pour vivre, mais il y a aussi quelque chose du corps qui a besoin de s'entraîner, comme les danseurs. Sinon, on rapetisse, on réduit, et on se dessèche, voilà. Et je comprends dans mon quartier les restaurants qui font des petits plats à emporter et tout ça, ils ont besoin de continuer, pas seulement pour l'argent, aussi pour vivre vraiment.
Et pour les restaurateurs et pour les bars, ça a été probablement hier la douche froide avec des réouvertures inenvisageables pour l'instant.
Oui.
Avant la mi-janvier, c'est long, la mi-janvier, 2 mois encore sans pouvoir faire ce qu'on aime faire, pratiquer son métier aussi. Hier, en revanche, le beau mot de culture qui avait été séché lors de la précédente intervention du chef de l'État a été évoqué. Vous en attendiez quelque chose, vous, de cette intervention, un signe fort, un rappel aussi que la culture, sous toutes ses formes, doit vivre et continuer à exister, même pendant des périodes de crise sanitaire comme celle-ci, en France.
J'ai l'impression qu'il aurait dû le dire plus tôt. Moi, je trouve ça un peu tard, quoi. Tant mieux qu'il l'ait dit, au fond. Mais j'aurais aimé que ce soit dit plus tôt, pas parce qu'on est des êtres privilégiés, mais parce qu'on est des partageurs, et que on n'existe pas seulement soi-disant pour les intellos. Non, on existe dans la tessiture du pays, comme une musique intérieure. Alors voilà, mais tant mieux qu'il l'ait dit au fond.
Juliette Binoche, vous êtes à la place du chef, c'est celle de la journaliste, de l'animatrice de cette émission. Vous avez une question pour Claire Denis?
Vous me prenez au dépourvu.
Moi aussi.
Moi, je croyais que j'allais être complètement transparente dans cette histoire. J'ai un masque en plus, normalement on ne devrait pas me voir. Mais qu'est-ce que je pourrais te poser comme question? Non, c'est plus une déclaration. Je crois que je t'aime profondément.
Réciproquement, c'est vrai. C'est vrai, il y a quelque chose qui est inséparable de l'amour dans ce travail. Ou alors, ça devient technique, justement. Ça me met les larmes aux yeux.
Et cet amour et ce sentiment-là, est-ce qu'il naît aussi de la manière, pour vous, Juliette Binoche, dont Claire Denis vous a regardé dans les précédents tournages, dans les films que vous avez pour l'instant réalisés ensemble, dans ce qu'on appelle la direction d'acteur, de manière un peu plus froide, mais dans cette relation que vous avez pu tisser lors de...
J'ai jamais eu l'impression d'être dirigée. C'est pas un mot du vocabulaire qui se passe vraiment dans ces moments-là de co-création. On va vraiment dans une autre sphère, un autre niveau. Donc il y a un regard. Ça, le regard de Claire, je le sens. Et c'est ça qui me fait bouger. C'est ça qui m'émeut, en fait.
Il y a un regard, il y a une voix aussi, la vôtre, Claire Denis, et une présence que vous avez affirmé au fil des années, de vos films, justement, depuis Chocolat, en 1988, à revoir, je l'évoquais, sur la plateforme MK2 Curiosity, votre premier film, marqué
Curiosity,
par votre enfance,
j'adore.
Oui, ça donne envie. Marqué par votre enfance au Cameroun, commencé par un film assez autobiographique, c'était peut-être pour vous comme une manière d'affirmer, de poser, voilà, qui je suis. Désormais, vous allez pouvoir ou devoir compter un peu avec moi.
Ah, j'ai pas du tout pensé ça. Je pensais que je devais rendre quelque chose. Le Cameroun m'avait appris tant de choses quand j'étais une petite fille et une plus grande fille que au moins je devais lui rendre quelque chose. Donc c'était difficile d'aller y faire un film, en brouillant un peu la biographie, mais je me disais, si je commence pas mon travail au Cameroun, je pourrais pas être cinéaste. Il y avait quelque chose qui était tellement, c'était tellement imprégné en moi, les odeurs, la façon de vivre, la façon de manger. Il fallait que j'avais traversé tous les États-Unis avec Wenders pour Paris, Texas, et je me sentais vraiment une étrangère. C'était des paysages de cinéma vraiment qu'on traversait, hein, tous les westerns, tout ça. Mais je me disais, oui, là, je suis vraiment une intruse là-dedans. Alors que peut-être j'avais besoin de rendre à ces paysages camerounais un petit peu de mon regard, des images qui étaient restées en moi pour toujours.
Et depuis, l'ailleurs, et dans vos films, hein, en Afrique, dans Chocolat ou dans White Material, ou ici, ils sont originaires du Bénin, dans S'en fout la mort, de Lituanie, ou encore dans J'ai pas sommeil, vous avez toujours laissé place à cette étrangeté, à cet autre, dans votre cinéma. Il y a en ce moment un festival, celui des trois continents, qui a débuté le week-end dernier, jusqu'au 29 novembre. Il se passe en ligne cette année. L'Asie, c'est encore un angle un peu plus mort de votre filmographie, on le voit moins.
Mort.
L'Afrique, non, moins existant. Une zone d'ombre, si vous préférez. L'Afrique, c'est le continent où vous avez grandi et qui fait, où vous avez fait aussi ensuite vos premiers pas comme cinéaste. L'Amérique latine, c'est l'avenir, et on terminera là-dessus, Claire Denis, c'est l'avenir suspendu à ce tournage pour l'instant repoussé, avec Robert Pattinson, l'acteur de High Life, que vous y retrouverez, confiné pour l'instant, Batman, encore avec des ailes et pas tout à fait terminé.
Moi, je le prends sans le costume.
Vous le prenez sans le costume, nous aussi, toujours. Non, mais sérieusement, l'Amérique du Sud, ce sera le lieu du prochain film encore, celui d'après?
Bah, déjà, on va faire celui-là, après on verra. L'Amérique du Sud ne m'est pas étrangère parce que ma mère est d'origine brésilienne. Je me sens liée à l'Amérique du Sud aussi parce que c'est plein de pays qui ont eu des histoires politiques très dures et ce sont des gens très courageux, comme le Chili dernièrement ou le Nicaragua justement. Ce sont des exemples de gens qui se battent toujours pour la démocratie. Ouais, j'adore l'Amérique du Sud. Et l'Asie, je pense qu'elle elle nourrit beaucoup le cinéma. Donc, on est nourri par les cinéastes japonais, coréens et taïwanais. C'est vraiment une nourriture très, très bien équilibrée.
On est en retard à cause de moi. Je vous invite à aller quand même en ligne retrouver ce cinéma et ce festival des trois continents. Claire Denis, vous restez avec nous pour le journal et la deuxième partie de La Grande Table.